RCF. Bonjour à tous. La marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, une émission pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Claire Colette, la marche est entrée dans votre vie et elle vous a littéralement bouleversée et transformée. Vous étiez assistante sociale en Belgique, votre pays natal, et en 2006, vous avez décidé de partir de Louvain-la-Neuve et de vous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. 3 mois de marche, seule, avec un corps qui pourtant vous faisait terriblement souffrir, car vous aviez une fibromyalgie, des douleurs chroniques diffuses, une maladie que l'on ne sait pas vraiment guérir aujourd'hui. Alors Claire Colette, vous aviez 53 ans, qu'est-ce qui fondamentalement vous a décidé de faire cette première et longue marche ?
C'est un état de souffrance qui est apparu, mais presque brusquement, c'est-à-dire que je n'avais pas repéré cette progression des différents symptômes qui se présentaient dans ma vie. Il y a eu un moment déclencheur qui m'est vraiment tombé dessus. C'est-à-dire que c'est presque comme ça que ça s'est passé, comme si je me réveillais au matin, je me lève, je me réveille et je réalise, mais Claire, tu n'as plus 20 ans, tu as 53 ans. Et non seulement tu n'as plus 20 ans, mais tu es déjà sur une phase descendante, hein, parce que j'avais 53 ans. Et ça me met au tapis. Et ça me met au tapis parce que j'ai couru ma vie pendant ces 50 ans en remplissant tous les vides, tous les blancs, en faisant plusieurs boulots, en sortant, guindaillant beaucoup. Je fumais aussi beaucoup et j'anesthésiais aussi des moments d'angoisse avec un petit verre de vin par-ci par-là. Et donc cette course contre la montre ne m'a pas permis de réaliser ce temps qui passe. Et cette prise de conscience qui m'est tombée dessus, c'était une grâce quand même déjà à ce moment-là, me met au tapis et me met avec des questions très aiguës, des questions qui m'ont déjà traversé préalablement, mais à ce moment-là, elles sont vraiment
des questions
au cœur,
du sens
de la vie. Voilà, Claire, qu'as-tu fait de ta vie, etc. Quoi.
Puis vous aviez des problèmes physiques aussi.
Alors, ils sont venus, mais après, parce qu'en fait, donc ces questions qui viennent me bouleverser, c'est qu'as-tu fait de ta vie, qu'est-ce que t'as réussi, c'est quoi réussir, et les réponses que je donne à ce moment-là, étant dans une fermeture et j'avais perdu le goût de la vie dans cette force, dans cette course-là, c'est ben voilà Claire, t'as tout raté, ta vie c'est un fiasco, et je m'octroie ce jugement, Claire, tu es nulle.
Et, l'auto-dénigrement.
Oui, c'est ça. Et je n'ai pas perçu, mais avec le recul que j'ai pris après pour analyser, c'est que je me suis rendu compte que j'attrapais des douleurs dans le corps. Donc la fibromyalgie était en train de s'installer.
Donc c'est cette maladie qui n'est pas guérissable aujourd'hui.
Alors oui, donc je vais consulter.
Vous aviez mal partout.
Partout, une fatigue qui s'installe. Il me fallait une demi-heure pour me mettre en route. Donc je vais consulter un rhumatologue qui, après toute une série d'examens, me donne ce diagnostic. Voilà, Madame Colette, vous souffrez de fibromyalgie. Alors ça ne se soigne pas, dit-il. Ça évolue dans le temps. Et la seule manière de réduire la douleur, c'est un antidépresseur à dose infinitésimale. Donc rassembler tout ça en même temps, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. C'est un chaos, je suis nulle, je suis malade, ça ne se guérit pas. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Ou bien je mets fin à mes jours, ou bien, voilà.
C'est pour ça que dans votre livre, vous dites c'est marcher ou mourir.
C'est ça.
C'était ça, oui. En fait. Ce qui vous a mis en marche en 2006, c'est je pars à Compostelle, depuis la Belgique, hein, ouais. depuis chez vous.
Oui, de mon domicile. Ouais.
Et je marche ou sinon je vais mourir.
Oui. Il y a d'ailleurs cette phrase puissante de Luc Andrian, c'est « il arrive un moment de la vie où il faut soit changer ». Soit mourir. Donc c'est de cet ordre-là. Et ça m'a vraiment été un moment où j'ai senti une puissance terrible. Voilà, je dépose les clés dans la boîte aux lettres et je pars sans quasiment de préparation.
Vous n'aviez jamais marché avant, Claire Colette ? Vous n'étiez pas une...
J'étais pas du tout une marcheuse.
Pas du tout une marcheuse.
Non, du tout. Et en plus, je suis partie sans me préparer parce que intuitivement, j'ai senti, je suis quelqu'un qui a pu vivre en gardant la tête hors de l'eau par le mental, parce que j'ai un fort mental. Et donc, voilà, j'étais responsable d'associations, etc. Organiser, je savais, mais désorganiser, partir en faisant une sorte de lâcher-prise totale, c'était de nouveau cette deuxième grâce-là, Claire part sans rien préparer. Je savais même pas quel chemin prendre, voilà, pas d'argent, pas de téléphone portable, aucune préparation, et partir le matin sans savoir où je vais dormir le soir. Voilà.
Alors ça, c'est ce que ne font pas beaucoup de pèlerins. Des pèlerins qui partent, ils ont étudié l'itinéraire de Compostelle avant, ils connaissent à peu près le nombre de kilomètres qu'ils vont faire, les étapes où ils vont s'arrêter, mm-hmm. où ils vont pouvoir loger. Mm-hmm. Vous, vous préparez rien?
Je ne prépare rien.
Jamais, même maintenant encore. Maintenant
encore maintenant, 15 ans plus tard, c'est pareil.
Une grande marcheuse,
oui,
vous ne préparez
oui.
rien.
Non. Et en fait, mettez-vous un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si vous partez le matin, vous savez que vous avez 15 ou 20 ou 25 kilomètres, vous savez que vous avez logé quelque part, vous êtes dans une sorte d'état d'esprit très particulier. Si maintenant vous partez le matin, vous ne savez pas du tout où vous arrêtez, vous n'avez pas qui va vous héberger, où vous allez aller, et vous vous mettez dans une ouverture, une disponibilité à tous les signes qui vont se présenter. Et donc vous êtes dans une réceptivité qui est tout à fait différente et qui vient faire écho à mon manque de réceptivité dans ma vie courante. On a plein de signes, il y a plein de beauté autour de nous, il y a des choses dures aussi. Et donc sur le chemin, c'est pareil. Donc si je pars, je marche, et puis je rencontre une personne, ou je rencontre un signe, pas un signe d'oiseau, mmh. hein, voilà, il y a des choses qui vont se présenter. Et qui vont me dire, une personne va dire, venez loger chez moi. Si je sais que je suis attendue parce que l'hébergement est réservé, je ne vais pas le faire.
Mais vous le savez bien, Claire Colette, la majorité des gens ne peuvent pas faire ça. Ils ont peur. Ils ont besoin d'être rassurés par l'organisation, par le programme.
Ouais.
Pourquoi vous aimez particulièrement cette non-organisation, ce lâcher-prise? Ça demande une confiance incroyable.
Alors, même encore aujourd'hui, ça demande une confiance. Je veux dire, je ne suis pas du tout blasée, donc je reste inquiète par moments, intimidée d'aller frapper aussi par moments. Mais j'ai tellement découvert que ça donne une intensité de vie, de se laisser nourrir par autre chose, de se les bousculer, d'oser, de prendre du risque. On est aujourd'hui dans une société tellement sécuritaire qui nous réduit en fait l'intensité de vie. Et partir ainsi, c'est permettre à la vie de venir nous nourrir. Moi, j'ai vraiment le sentiment, et c'est vraiment une émotion que j'ai ressentie cette première fois qui était vraiment fondatrice de ma manière de voyager. C'est un petit peu comme dans la vie... La vie, il y a des failles par lesquelles le merveilleux peut passer. Et quand on se met dans une disponibilité où ces failles-là sont là et on peut les voir, on retrouve du merveilleux et on retrouve du lien, du vivant. Et si on est dans quelque chose de très rationnel, on ne se laisse plus nourrir par ça. Mais il faut oser, c'est vrai.
Chère Colette, il faut oser, dites-vous, partir, c'est oser changer, c'est oser sortir de ses habitudes, c'est oser sortir de ses sécurités. En quoi c'est bon de vivre ça? Oser partir, oser changer, oser se mettre dans une forme d'insécurité.
Mm-hmm.
C'est le contraire de ce que beaucoup de gens recherchent. Beaucoup de gens recherchent la sécurité, le non-changement, les habitudes qui rassurent.
Ouais. C'est une question, mais immense. Je pense que nous sommes des êtres extraordinairement riches, infinis. Et vivre dans nos peurs nous coupe nos ailes. Et se redonner cette chance de regoûter à cette dimension infinie que nous avons, c'est Jean-Yves Leloup qui dit... Nous avons une démangeaison des ailes et cette démangeaison des ailes nous fait goûter à l'infini qui est en nous. Et donc, je le vis comme ça et c'est pas forcément facile non plus. Mais quand on y a goûté, on ne peut que y regoûter. Et c'est regoûter à cette part de divin qui est en nous, quelque part aussi. Et alors, on peut l'appeler de plein de noms, mais faire une expérience de notre part divine, de notre infini en nous, c'est aller oser se mettre dans cette vulnérabilité complète. Sinon, on est barricadé dans cette sécurité. Et aujourd'hui, ô combien c'est important de pouvoir réouvrir. Alors, le terme très souvent des thérapeutes, c'est sortir de sa zone de confiance. C'est une autre manière de le dire, de le nommer. Moi, j'aime beaucoup ça, aller goûter notre infini. Mais,
sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confiance.
Oui, c'est ça, c'est les deux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais.
Mais j'aime bien parce que vous parlez de jubilation. C'est un mot que vous aimez. La marche vous apporte de la jubilation. Vous écrivez la jubilation d'entrer en nomadisme. En quoi cette vie un peu nomade, cette vie pauvre, vous avez juste votre petit sac sur le dos, vous marchez toute la journée, en quoi ça donne de la joie?
Alors en fait, le fait que vous vous retrouvez dans cette situation de frugalité, d'essentiel, comme vous dites, on a juste son sac à dos, et quelquefois on a un sentiment qui est tellement d'éblouissement qu'on n'a presque plus envie, je parle pour moi, je n'ai presque plus envie de ce sac à dos, il est encore trop. Et c'est d'être complètement, la jubilation elle vient de l'émerveillement, on est dans la nature, on est dans les sens, on voit des choses merveilleuses, on entend des choses merveilleuses, les sens se réouvre.
Compris tout, l'odorat.
L'odorat,
les odeurs dans
la forêt. Ça a été d'ailleurs un des sens qui, moi, a été le plus jubilatoire quand je suis partie la première fois, qui reste d'ailleurs. Pourtant, j'étais une grande fumeuse. J'ai fumé pendant 30 ans et vraiment beaucoup. Et ce qui a été déclencheur aussi de ma guérison, c'est que vous traversez une forêt. Moi, je suis une femme, je suis pas très costaude non plus. Et donc, il y a l'inquiétude qui arrive. Et puis, l'inquiétude, elle ouvre vers la peur. Et donc, si je me laisse prendre par la peur... je suis mal marrée parce que je ne pourrais plus avoir cette jubilation-là. Et je me suis rendu compte, mais c'est de nouveau une intuition, qu'en descendant dans les sens, dans le corps, ma peur, elle avait disparu. Donc je quitte le mental, et si je reviens dans le mental, j'entends un bruit, le mental va me dire « il y a quelqu'un qui est caché derrière un arbre », enfin même pas un animal sauvage, c'est plutôt le prédateur qui est dangereux. Hein. Et donc de redescendre dans les sens va nous permettre, et beaucoup de gens en font l'expérience, de goûter à la vie. Et donc la jubilation, elle vient de ce goût de la vie, de cette saveur de la vie. Et je pense qu'on pourrait vraiment y trouver des éléments très scientifiques, parce qu'on est fait de plein d'eau. Donc si on est dans la joie, on va nourrir aussi cette eau, cette énergie qui est en nous.
Et donc la joie nous fait du bien, ça on le sait tous, on l'a tous expérimenté. Ouais. Et donc il y a un lien entre la joie, la marche contre la dépression, parce qu'un moyen de lutter contre la dépression, vous le recommandez, c'est de marcher.
Oui. Oui. C'est pour moi, la marche, c'est une médecine holistique. Alors, c'est un grand mot, dire qu'elle
guérit tout.
Elle guérit tout, mais elle touche surtout à toutes les dimensions de l'être. Là, maintenant, je suis en train de travailler sur un troisième ouvrage qui est Marcher pour guérir, et où j'essaie de récolter, de rassembler les différentes dimensions du corps, du cœur, de l'émotionnel, du mental, de l'esprit, et de l'âme, et d'essayer de voir quelles sont les médecines, c'est-à-dire les remèdes qui vont apporter cette guérison, parce que si on guérit le corps, c'est parce que justement c'est une médecine pour moi holistique, la totalité de l'être, elle est sollicitée par la marche, donc ce n'est pas que le corps seul. C'est le corps parce qu'il va retrouver son alliance avec le cœur, avec ses émotions, avec son mental et les pensées qui peuvent tourner en rond et puis qui vont aussi se déposer sur le chemin. Et puis on va goûter, on va toucher à la spiritualité.
Alors très concrètement, Claire Colette, cette fibromyalgie que vous aviez, donc toutes ces douleurs que vous aviez dans votre corps et que votre médecin disait on ne peut pas guérir.
Oui, tout à fait.
Elles ont disparu suite à la marche?
Alors elles ont complètement disparu, oui.
Au bout de combien de temps?
Au bout de quasi un mois. Donc c'est même pas...
Pas
très très long.
Vous êtes partie trois mois, votre pèlerinage, votre première grande marche, en partant de chez vous en Belgique jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a duré trois mois. Au bout d'un mois, vous n'aviez plus ces douleurs dans votre corps?
Non. Le départ a été extrêmement douloureux parce qu'en même temps, il y avait le poids du sac. Je ne m'étais pas non plus entraînée pour porter un sac à dos. J'avais 12 kilos, c'était quand même assez lourd. C'était la canicule en 2006. La marche intensive, je ne me suis pas préparée à la marche non plus. Donc ça a d'abord été en crescendo, donc des douleurs. J'avais même les épaules en sang parce que j'ai les os ici qui sont très saillants. Donc les lanières du sac m'ont vraiment blessée. Donc les douleurs étaient crescendo. Et puis elles ont commencé à s'atténuer, mais parce que toute une série d'autres dimensions sont arrivées dans cette première étape de guérison du corps. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu trois moments dans ce voyage-là, ce premier voyage. La guérison du corps, et puis le cœur qui s'éveille, et puis la spiritualité qui s'ouvre.
Trois mois, trois étapes. Hein. Le premier mois, c'était le corps. Ouais. Le deuxième mois, ça a été le cœur. Donc le cœur, quand on dit que le cœur, c'est tout ce qui se passait dans votre mental.
Les choses
qui remontaient de votre histoire.
Oui, tout à fait, parce qu'on a une histoire quand même très douloureuse dans la famille, donc depuis des générations. Et donc tout ça s'est déposé sur le chemin aussi. Voilà. C'est composté, en fait.
Ouais. C'est beau, hein, le compost. J'avais jamais fait le lien entre compost et compostelle.
Mais c'est ça.
Intéressant. Et le troisième mois, ça vous a ouvert à la dimension spirituelle.
Et chaque jour, pendant ces trois mois-là, chaque jour, j'ai eu un cadeau. Donc je parlais des failles tout à l'heure, mais chaque jour il y avait quelqu'un qui venait déposer un bijou, une pierre précieuse dans ma rencontre. Ça pouvait être des choses négatives aussi, hein, parce que ce que j'ai compris très vite, donc le premier jour j'étais hébergée spontanément par une fermière et j'ai compris vraiment qu'on pouvait demander aux gens et que je n'instrumentalisais pas du tout si je devais frapper, parce que elle devait me rencontrer autant que moi je devais la rencontrer. Et donc très souvent on se rend compte qu'on est en train d'être hôte chacun. Donc hôte d'ailleurs étymologiquement, c'est aussi bien celui qui reçoit que celui qui est reçu. Et le troisième jour, j'ai eu mon premier non qui a été aussi fondateur que mon premier oui. C'était un prêtre qui me refuse l'hébergement. Et moi je vais sentir ma colère qui va monter en moi. J'avais beaucoup de choses à nettoyer dans cette colère-là aussi. Et donc je lui fais une sorte de leçon alors que j'étais partie quand même pour moi recevoir des leçons du chemin. Et je lui dis, mais à quoi vous servent toutes ces belles affiches aidez-vous, aimez-vous les uns les autres, etc. Et je sens le prêtre profondément touché par ma remarque impertinente. Et donc il revient après près de moi et il me permet de loger dans un local qui est à côté de chez lui. Et quand, voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas d'eau, mais j'avais un toit. Et j'étais à cette époque quand même assez intimidée de dormir à la Belle Étoile. Et puis, peu de temps après, je suis en train de prendre mon repas du soir et je sens, mais vraiment dans toutes les cellules de mon être, une gratitude extraordinaire pour ce prêtre. Et cette gratitude, c'est ce message-là clair. Le chemin va t'apporter tout ce dont tu as besoin, mais que ça te plaise ou pas.
Et c'est un peu ça. Tout nous enseigne, en fait, si je vous entends bien. Tout nous enseigne.
Tout à fait. On est là pour enlever nos aspérités qui nous a aussi enfermés, pour ouvrir nos enfermements. Si tous les jours, quelqu'un va m'accueillir et dire, Claire, mais tu es là. Plus grande, je vais juste traverser ça sans du tout entraîner de changement. Là, je vais m'écorcher à des rencontres, je vais m'écorcher au chemin, je vais m'éroder,
Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans sa tête pour se dire que tout nous enseigne, aussi bien le positif que le négatif?
C'est extrêmement difficile et à remettre sur le métier chaque jour. Et c'est un peu ça qui fait que chaque année je repars marcher aussi, parce que je m'écorche bien, je m'élague bien, mais ce sont des couches, et je pense que c'est jusqu'à son dernier souffle. Et c'est d'accueillir ce qui nous dérange d'abord que l'autre, comme étant un message et qui vient nous chercher dans quelles sont mes fermetures. Quand j'entends quelque chose comme ça qui se ferme, qu'est-ce que ça vient me dire de mes propres fermetures? Qu'est-ce que ça vient me dire de mes propres intolérances? Qu'est-ce que ça vient de me dire de ma colère? Qu'est-ce que ça vient me dire? Et ça ne va pas se faire automatiquement. Donc le premier temps, si je reçois quelque chose de désagréable, je vais d'abord, il y aura un refermement, une fermeture, un non. Et puis après, puisqu'il y a un petit peu d'entraînement chez moi, je dis, attends Claire, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Reviens un peu dessus. Et là, c'est le cadeau, parce que je peux l'entendre. Je peux entendre que la personne, d'ailleurs, je pense que c'est le Dalai Lama qui dit, nos ennemis sont nos maîtres. Alors, ennemi, apprendre dans ce sens-là, hein, pas quelqu'un, mais ça peut être aussi très très dur. Donc l'ennemi va venir nous révéler, l'ennemi finalement, c'est un ami, mais qui est caché derrière ce manteau-là de l'ennemi. Et le chemin de Compostelle, ça va être aussi la traversée de paysages extraordinaires, alors qu'il va nous renvoyer à cette beauté qui va nous nourrir, donc dans la lumière. Mais ça peut être aussi le second livre où je suis allée marcher en Auvergne. Là, c'est une géographie qui est extrêmement en contraste d'ombre, de lumière, de dureté, de beauté, de merveille. Et donc, par exemple, quand je me retrouve dans des gorges très profondes, sombres, où il y a un bruit de torrent, je sens mon angoisse qui vient et qui va, je suis seule, donc je n'ai pas d'échappatoire, je dois traverser ça. Et il y a des choses qui vont remonter de mon histoire, waouh, et qui vont pouvoir de nouveau se déposer sur la terre.
Marche et rêve, Thierry Lyonnais.
Claire Colette, quand on parle de chemin de guérison en pratiquant la marche, en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis, c'est une guérison complète de toutes les parties de notre être. Parce que bien sûr, vous avez vécu une guérison physique, vous, dans votre corps, puisque cette fibromyalgie que vous aviez a disparu, donc vous n'avez plus ces douleurs dans votre corps, en partie grâce à la marche. Mais vous avez aussi vécu de vraies guérisons intérieures par rapport à votre histoire familiale, votre généalogie aussi. Tout se tient, tout est lié, selon vous.
Oui, tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que pour moi, je dis que la marche est une véritable médecine, avec un grand M holistique. Et en même temps, tout est lié, mais ça part d'abord par le corps. C'est le corps qui est porteur, qui porte toute notre histoire, qu'elle soit émotionnelle et spirituelle. On est des êtres incarnés. Et c'est pour ça que le mouvement de ce corps est essentiel dans ce travail de transformation. Et j'ai même dit dans ce premier voyage que j'ai fait, donc il y a presque 16 ans maintenant, que j'ai dû passer par le corps. J'ai dû d'abord guérir le corps.
C'est la base de tout. C'est la première étape.
C'est mon expérience, en tout cas. Parce que j'étais tellement traversée par la douleur, par la souffrance, qu'il n'y avait pas de place pour autre chose. D'ailleurs, je suis partie sans presque ressentir de tristesse de quitter tous ceux que j'aime, parce que j'étais traversée par cette douleur, par cette maladie. Et parce que la douleur s'est atténuée, et ma tête aussi s'est vidée de mes pensées qui tournent à vide, comme ça, que j'ai pu réouvrir ce cœur, réentendre en tout cas toute cette histoire émotionnelle. Et puis,
ça passe d'abord par le corps.
C'est le sentiment.
C'est ça que j'entends chez vous. C'est-à-dire qu'il faut mettre ce corps en mouvement pour ensuite que se mette en mouvement notre mental, notre psychisme.
Oui, pour moi en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai.
Vous citez Hippocrate, c'est le père de la médecine. Vous dites la marche, c'est Hippocrate qui dit la marche est le meilleur remède pour l'homme. Il aurait dit ça, et on guérissait par la marche du temps
d'Hippocrate. Mais alors c'est incroyable, parce que quand on voit le protocole qu'il a donné en 400 avant Jésus-Christ, c'est exactement ça. Moi je l'ai découvert après mon premier périple. C'est qu'effectivement, il proposait aux gens de marcher, de jeûner. De marcher jusqu'à ce que la fatigue revienne, et puis cueillir les fruits du verger, boire le lait des chèvres, et puis dormir
À la belle étoile. Et ça pendant plusieurs semaines.
Jusqu'à ce que, parce que même à cette époque-là, les gens des villes tombaient malades. Alors moi, ça m'a sidéré quand j'ai lu ça, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, avec toute la pollution, tout le rythme de vie, à l'époque, c'était pareil. Les gens des villes tombaient malades aussi beaucoup plus que les gens qui vivent à la campagne, quoi.
Alors Claire Colette, je ne voudrais pas non plus que les gens nous écoutent et s'imaginent que finalement il suffit de marcher pour guérir toutes les maladies. On n'est pas là-dedans.
Non, je ne suis pas là-dedans.
C'est pas magique la marche, et il y a des gens qui ont des maladies qui ne vont pas se guérir s'ils partent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais par contre, vous dites que la marche a un pouvoir guérisseur. Vous utilisez cette expression, un pouvoir guérisseur. Alors, aidez-nous à comprendre, et surtout à s'adresser à des gens qui nous écoutent et qui eux sont malades. Vous les encourageriez vraiment à partir, marcher, quelle que soit leur maladie ou pas?
Alors maintenant, c'est à la condition qu'ils peuvent mettre un pied devant l'autre, bien sûr. Moi, j'ai rencontré des gens qui marchaient 5 km par jour et qui ont fait des voyages de 3, 4, 5 mois avec 5 km par jour, évidemment, pour aller par exemple jusqu'à Compostelle.
Donc, qu'en général, en moyenne, on marche 20-25 km.
Oui, par exemple, de la Belgique jusqu'à Compostelle, ça fait 3 mois. Mais donc, ce que je peux dire, en tout cas, aux gens qui nous écoutent, c'est que la marche, elle est vraiment à la disposition de beaucoup de gens, de beaucoup plus de gens qu'on imagine, et de se dire, oui, je peux me mettre dans cette sorte de lâcher-prise, réoser, parce que ce n'est pas que physique, c'est aussi réoser, aller frapper chez les gens ou prendre sa tente et dormir sous une tente. C'est vraiment sortir d'un rythme, d'un enfermement, d'une manière de vivre, et de se réautoriser toute une série d'expériences de vie. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que le chemin n'est pas un chemin intellectuel, donc on ne fait pas un voyage intellectuel. On met tout son être dans cette démarche, et on va vivre, vous parliez tout à l'heure de la jubilation, chaque chose qu'on va vivre, on va faire des prises de conscience, mais on va le ressentir dans le corps, avant de pouvoir l'intellectualiser. C'est une démarche qui est vraiment à l'opposé de voilà, étudier, par exemple, d'apprendre un sujet ou d'apprendre, voilà. Ici, on vit d'abord l'expérience du corps et puis le corps va nous renvoyer toutes les informations qu'il faut et on va pouvoir les traiter avec l'intellect.
Claire Colette, en commençant cet échange, vous me disiez, à 53 ans, vous êtes dit, oh, mais ça y est, je suis vieille, je vieillis, 16 ans sont passés, vous êtes plus vieille qu'il y a 16 ans. Comment vous vivez le vieillissement et votre rapport à la marche dans le vieillissement?
Alors c'est aussi jubilatoire. Donc c'est un très très bel apprentissage au vieillissement, sur un plan, je dirais, un petit peu plus intellectuel, c'est-à-dire que pour moi quand je pars, le fait de partir, c'est porteur déjà de beaucoup d'enseignements, c'est-à-dire qu'on réapprend chaque année à quitter les liens, à quitter le confort justement, à quitter ses habitudes. Et voilà, donc ça nous glisse déjà la carpette en dessous du pied de simplement le fait de partir. Mais ensuite, je me rends compte aussi maintenant avec l'écart de 16 ans, c'est que d'année en année, surtout ces dernières années, c'est vrai que je sens que mon endurance est moindre, je porte moins facilement du poids aussi, et donc je suis confrontée au vieillissement, bien évidemment, ce qui m'amène à pouvoir transformer mon pas. Et le transformer, alors là, c'est, je le disais tout à l'heure, avec jubilation, parce que je vais marcher beaucoup plus lentement. Je vais prendre le temps de me connecter encore plus à la nature. Alors que quand on est plus dans la force de l'âge, on va plutôt sentir ce corps qui est en mouvement. Voilà, ici, c'est une sorte de reconnexion plus profonde avec la nature.
Donc vous marchez lentement.
Oui, tout à fait. Oui. Donc ça peut rassurer aussi des gens qu'on peut aller très loin en marchant lentement.
Claire Colette, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce rapport entre guérison possible et marche. Je renvoie vraiment à vos livres, Compostelle, la saveur du chemin, le premier livre que vous avez écrit pour témoigner de votre chemin de guérison dans tous les sens du terme lors d'un pèlerinage à Compostelle. Et puis votre livre récent, Marcher à cœur ouvert de l'Auvergne vers Compostelle, de livre aux éditions Salvator. Merci beaucoup d'être venu de Belgique, non pas à pied.
Non.
Mais merci d'être venu de Belgique pour nous partager votre expérience.
Oui, avec joie. Et puis je peux dire aussi aux auditeurs, si ils découvrent les livres, qu'ils peuvent toujours me contacter. J'ai laissé une adresse email dans les livres. Voilà, donc bienvenue.
Bon, on peut la donner, cette adresse email, si des gens veulent vous écrire.
Oui, donc c'est claire.colette avec un L-E-D-T-E @skynet.be. Skynet, c'est S-K-Y-N-E-T.
Merci beaucoup, j'espère que vous donnerez envie à beaucoup de personnes de se mettre en marche.
Ah oui, c'est avec beaucoup de joie.
Découvrir la joie de la marche.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait.